Eh bien, une première parole lue dans l'Évangile, la conclusion de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La semaine dernière, nous avons considéré le Jésus historique, celui qui parle encore en étant sur la terre, qui va quitter ses disciples après avoir accompli son ministère. Tout ce que Dieu a fait par lui, lorsqu'il vivait parmi nous, dans son humanité. Maintenant, nous pouvons poser la question de savoir ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui. En quoi pouvons-nous compter sur lui aujourd'hui, tous les jours? Alors ici, deux vérités nous sont données. La première, c'est qu'il a été établi dans le pouvoir divin. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la seconde, c'est qu'il demeure avec nous, ses disciples. C'est pas à la foule qu'il dit ça, c'est à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est établi dans le pouvoir divin, il demeure avec nous. Cela est dit de manière un peu différente à la fin de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, les versets 19 et 20. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et le Seigneur travaillait avec eux. Nous pouvons compter sur Jésus à cause, premièrement, de sa position et, secondement, à cause de son engagement envers nous. Jésus ne s'est pas retranché au ciel maintenant qu'il a travaillé sur la terre. Jésus reste engagé envers nous. Et là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et il est assis à la droite de Dieu. Ça va ensemble. S'il est assis à la droite de Dieu, c'est qu'il a reçu le pouvoir. Nous allons lire quelques passages à ce sujet. Il a la position de l'autorité suprême sur l'univers entier. Mais il reste et particulièrement concerné par nous, et à agir en notre faveur. Alors, il y a de nombreuses affirmations des apôtres qui développent la vérité que Christ est maintenant assis à la droite de Dieu, ayant reçu tout pouvoir. La première affirmation, elle est donnée à la Pentecôte lorsque l'apôtre Pierre prêche pour la première fois l'évangile. Alors, je ne vais pas lire tout son propos, mais chapitre 2, verset 34 du livre des Actes des apôtres. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Le même apôtre, à propos du baptême, dans son épître, chapitre 3, versets 21 et 22, ce baptême qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, Dieu a déployé sa puissance en Christ, chapitre 1, versets 20 à 22. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aux Philippiens, chapitre 2, où l'apôtre nous enseigne à notre propre sujet, au sujet de l'humilité que nous devons avoir, et il nous dit, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » C'est... passages sont absolument capitaux, déterminants. Ils nous font comprendre la position de Jésus qui a été élevé et qui a autorité sur l'univers tout entier. tout lui est soumis. Et l'autorité suprême qui a été conférée à Jésus-Christ vient de ce qu'il a souffert la mort pour nous. C'est le lien entre ce que nous avons vu concernant le Jésus historique, qui se termine, dont le ministère se termine par le sacrifice de la croix, et ce qu'il est pour nous aujourd'hui, et ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait valoir son sacrifice, sa mort expiatoire, devant Dieu le Père, là où il est élevé à sa droite. Si maintenant il est élevé au-dessus de tout, c'est pour que sa mort expiatoire, soit efficace envers tous ceux qui croient. Dès l'instant où quelqu'un place sa confiance en Dieu par Jésus-Christ, il est au bénéfice de sa mort. Et rien dans l'univers ne peut s'opposer à l'efficacité de la mort de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu crois, quel que soit le mal qui t'enserre, qui t'entoure, qui t'a amené, qui a travaillé dans ta vie, quels que soient les péchés que tu as commis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu places ta confiance en Jésus-Christ, il fait valoir sa mort en ta faveur. Il te délivre de cette situation de péché et de mort. L'apôtre Paul l'enseigne de cette façon-là dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et à chaque fois je suis obligé de ne lire qu'un extrait, mais c'est toujours tout un développement que les apôtres font. Je prends à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà la clé de l'élévation de Jésus-Christ. Il intercède pour nous. En tant qu'homme fidèle, totalement obéissant et désormais élevé dans les cieux, afin que la volonté de Dieu, pour laquelle il a donné sa vie, se déploie pour la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est notre salut. Jésus est le médiateur de notre salut. Ça me fait penser à ce que l'apôtre Paul dit. Que ce soit tôt, que ce soit tard, plaise au Seigneur qu'il en soit ainsi, et que tous, j'extrapole, et que tous entrent dans la maison du Seigneur. Amen. Oui, la clé de l'élévation du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est à la droite de Dieu afin de faire valoir son sacrifice pour nous. Il est dans cette position d'intercesseur et donc de médiateur entre Dieu et les hommes. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'apôtre Paul, toujours à Timothée, j'exhorte donc au chapitre 2 de sa première épître, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage établi en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Par cet enseignement, l'apôtre nous met au diapason de la volonté de Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ par l'intercession, par la médiation. Il nous met au diapason parce qu'à nous aussi, il nous demande de prier, de faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce, d'intercéder auprès de Dieu sur la base de ce que Jésus fait en ce moment pour nous à sa droite. La rançon, le prix payé pour le péché, a permis la médiation. L'apôtre Jean le dit très simplement, première épître au chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus est là, à la droite de Dieu, qui plaide en notre faveur, en vertu du sacrifice de la croix, de la vie qu'il a donnée pour nous à la croix du calvaire, du sang qui a été versé pour l'effacement de nos fautes. Aujourd'hui, auprès du Père, Jésus plaide pour vous. Et cela dans un cœur à cœur avec vous. On peut assister parfois à des plaidoiries d'avocats qui sont brillantes, mais qui sont complètement... où l'avocat est complètement détaché de la personne pour laquelle il plaide. Il n'est pas impliqué. Il développe des arguments, des raisonnements, des arguties parfois juridiques. Mais Jésus, lorsqu'il intercède pour nous, il se met à notre place. Il implique sa vie, toute son âme est proche de nous. Il faut suivre le déroulé de l'épître aux Hébreux pour comprendre la puissance et la perfection de chaque intercession de Jésus pour vous. Il est si proche de vous. Là encore, quelques extraits de cet épître. À commencer donc par le chapitre 2. Et là, vraiment, il faut extraire des passages, mais c'est très difficile de se limiter. Les versets 9 et 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et versets 17 et 18, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, c'est celui qui offre les offrandes, miséricorde pour le pardon des péchés, un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jamais, lorsque vous présentez une requête à Dieu par Jésus-Christ, jamais il ne peut y être indifférent. Parce que ce que vous éprouvez, il l'a éprouvé dans sa chair. Il a souffert lui-même et il a été tenté, et il peut donc secourir ceux qui sont tentés. Au chapitre 4, versets 14 et 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Chapitre 5, versets 7 et 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce sont des détails que l'apôtre explique tout au long de l'épître. Mais voilà, Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été tenté, il a souffert dans la chair, il a été élevé de ce fait-là à la perfection de l'homme obéissant, fidèle, et maintenant il est élevé dans la gloire de Dieu, afin d'intercéder pour nous en étant proche de nous, en nous comprenant, en pouvant être totalement sympathisant avec nous et compatissant, parce qu'il sait ce que c'est que la tentation, il sait ce que c'est que l'épreuve, il sait ce que c'est que la souffrance et il sait ce que c'est que la mort. Je peux même remonter un peu plus haut dans le texte, au chapitre 2, à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est le psaume 8. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Et au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Voilà ce que Jésus fait aujourd'hui pour nous. Pour tous ceux qui sont amenés à la connaissance de Dieu par l'Évangile, tous ceux qui se repentent de leurs fautes, tous ceux qui mettent leur confiance en lui pour le pardon de leurs péchés, eh bien, chaque jour, Jésus est là, devant la face de Dieu, afin de faire valoir son sacrifice pour le pardon de nos fautes, afin de compatir avec nous, afin de nous soutenir, de nous comprendre et de nous délivrer de toutes nos épreuves. Le Seigneur est fidèle, comme il a été fidèle en étant sur la terre pour aller au bout de son obéissance. Il est fidèle aujourd'hui pour plaider à jamais en faveur de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Vous pouvez le prier en toute confiance. Il vous écoute et il vous exauce lorsqu'il s'agit de dévoiler votre faiblesse, vos besoins, vos péchés devant Dieu. Il est là pour vous. Amen.